Vous aimez la littérature ?
J'aurais mieux essayer de faire de la littérature. Vous pourrez peut-être m'aider à trouver une solution.
Ouais, c'est de cramberger un peu pour une fois.
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
Mon livre parle de masques comme métaphore. Une métaphore n'a pas un...
Quel essai ?
Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qui vient de sortir d'un dénommé Grégoire Chamaillou, qui est philosophe, ce livre est intitulé « La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire ». Il nous dit que partout ça se rebiffait. Les années 1970, a-t-on dit, à droite et à gauche, du côté de Samuel Huntington comme de Michel Foucault, ont été ébranlés par une gigantesque crise de gouvernabilité. C'est à cette occasion que furent élaborés, amorçant un contre-mouvement dont nous ne sommes pas sortis, de nouveaux arts de gouverner, dont ce livre retrace par le récit des conflits qui furent à leur source. L'histoire philosophique. On y apprendra comment fut menée la guerre aux syndicats, imposée le primat de la valeur actionnariale, conclut un contractivisme d'entreprise ainsi qu'un management stratégique des parties prenantes, imaginer enfin divers procédés invasifs de détrônement de la politique. Contrairement aux idées reçues, le néolibéralisme n'est pas animé d'une phobie d'État unilatérale. Les stratégies déployées pour conjurer cette crise convergent bien plutôt vers un libéralisme autoritaire où la libéralisation de la société suppose une verticalisation du pouvoir. Un État fort pour une économie libre. Je voudrais vous lire un petit extrait qui est assez significatif de ce que Grégoire Chamaillou entend par son développement philosophique. Il dit... Pour les économistes qui s'efforçaient dans les années 70 de rebâtir de nouvelles théories de la firme, tout comme pour les spécialistes de management qui s'interrogeaient à la même période sur les limites du pouvoir disciplinaire dans l'entreprise, il y avait un objet plus précis, si ce n'est de phobie, du moins de préoccupation, non pas l'État, mais l'autogestion. C'était le grand thème de la gauche radicale de l'époque, nourrissant ses réflexions d'une multitude d'expériences alternatives, dont les coopératives, les occupations d'usines avec contrôle ouvrier ou encore les entreprises autogérées yougoslaves. Elle y voyait une nouvelle voie prometteuse, une alternative possible aussi bien à la firme capitaliste qu'à la bureaucratie étatique. On l'a oublié, mais les défenseurs de la libre entreprise dans une situation, du moins au début de période, proches de la banqueroute intellectuelle, s'intéressaient eux aussi de près aux théories autogestionnaires. L'idée selon laquelle l'individualité de la coopération puisse se révéler socialement et historiquement supérieure à la compétition dans l'individualisme, ainsi que le chantait dans ces mêmes années Colette Mani, apparaissait aux néolibéraux comme une hypothèse suffisamment crédible pour qu'ils dépensent beaucoup d'encre et de papier à tenter de la réfuter, et pour cause. L'anti-étatisme des courants autogestionnaires, leur pensée de l'immanence, de l'autonomie et de l'auto-organisation exerçait sur eux un attrait indéniable. L'autogestion, en ce qu'elle était une tentative de rupture avec l'étatisme économique et un projet de dépassement à la fois du gouvernement managérial et de la pseudo-régulation par le marché, leur apparaissait comme un véritable défi. Tel était l'ennemi principal, sur le terrain théorique. De là pouvait venir le danger pour l'avenir, bien plus au fond que d'un keynésianisme moribond. La grande réaction qui s'était préparée dans les années 70 ne fut pas tant conçue comme une alternative à l'État-providence que comme une alternative à la contestation de celle-ci. Ce fut une alternative à l'alternative. Sans doute aurait-on là une bonne indication pour savoir d'où repartir aujourd'hui, contre le libéralisme autoritaire ou rouvrir le chantier de l'autogestion.